Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
Bonjour et bienvenue. Au menu, une belle édition variée comme vous les aimez. Notre capsule historique avec Isabelle Junot remonte aux origines de la maison emblématique des produits de beauté et soins capillaires, L'Oréal. Nous avons un extrait d'une captation devant public du balado Le Planif au Petit Théâtre Outremont. William Jeté-Corriveau de la BMO Marché des Capitaux a répondu positivement à notre invitation de structurer, de construire avec une stratégie d'options, un produit financier garanti avec une valeur stable comme un CPG, mais qui offre un coupon d'intérêt de 12 % et ce, sans frais de gestion. Mais voyons, trop beau pour être vrai. Ces explications et la mécanique du produit vont vous renverser. Aussi, nous rejoignons à Hong Kong Alexandre Lannoy, un jeune Québécois expatrié en Chine qui gagne sa vie là-bas comme gestionnaire d'actifs. Enfin, je vais vous raconter comment les Américains taxent le gain en capital et pourquoi nos ministres des Finances peuvent s'en inspirer, gagner gros tout en étant plus équitables envers la classe moyenne et la communauté des affaires qui contribuent à l'économie canadienne. Le balado Le Planif débute à l'instant.
L'Oréal, aujourd'hui reconnu mondialement comme un leader de l'industrie cosmétique, a humblement commencé son voyage en 1909 grâce à l'innovation d'un jeune chimiste français nommé Eugène Schuller. Ce dernier, animé par sa passion pour la chimie et son intuition pour les besoins non satisfaits dans le domaine de la beauté, a développé une formule de teinture pour cheveux qu'il a baptisée L'Oréal, débutant avec les lettres AU au lieu de la lettre O. Cette invention, qui offrait une gamme de nuances inédites et de qualité supérieure, a marqué le début de l'aventure de L'Oréal. Schuller, avec un esprit d'entreprise remarquable, a commencé à vendre son produit révolutionnaire aux coiffeurs parisiens, établissant ainsi les fondations d'une entreprise qui valorisait l'innovation et la proximité avec les professionnels de la beauté. L'engagement de Schuller envers la recherche et le développement a conduit à la création d'un laboratoire qui serait le berceau de nombreuses autres innovations posant les pierres angulaires de l'expansion de L'Oréal. Au fil des décennies, L'Oréal a grandi, transformant l'industrie cosmétique avec des produits innovants et des acquisitions stratégiques. Dans les années 60 et 70, l'entreprise a commencé à s'implanter sur le marché international, une vision portée par François Dalle, qui a pris la direction. Sous son égide, L'Oréal a étendu sa présence non seulement en Europe, mais aussi en Amérique et en Asie, diversifiant ses gammes de produits pour inclure tout, des soins de la peau et du maquillage aux produits de protection solaire. L'ère de la globalisation a vu L'Oréal acquérir des marques emblématiques telles que Lancôme, Maybelline et Kiehl's, renforçant ainsi son portefeuille et sa présence mondiale. La société s'est également engagée en faveur de l'éthique et de la durabilité, en lançant des initiatives pour réduire son empreinte carbone et en s'assurant que ses produits soient accessibles à une clientèle diversifiée. Aujourd'hui, L'Oréal se distingue non seulement par sa capacité à innover dans le domaine de la beauté, mais aussi par son engagement envers la diversité, l'inclusion et le développement durable. Avec des opérations dans plus de 150 pays, l'entreprise continue de façonner le visage de l'industrie cosmétique, tout en restant fidèle à l'esprit d'entreprise et à la passion pour la science qui animait Eugène Schuller à ses débuts. À travers les années, L'Oréal est devenu bien plus qu'une entreprise cosmétique. C'est une institution synonyme de beauté, d'innovation et de responsabilité sociale, reflétant l'évolution des désirs et des besoins de ses consommateurs à travers le monde. En 2024, la valeur boursière totale de L'Oréal, négociée entre autres sur le CAC 40 de Paris, excède les 240 milliards d'euros.
Vous n'avez pas le temps chaque matin de lire les journaux ni de consulter des applications de nouvelles? Essayez l'infolettre InfoBref. Elle résume en 5 minutes l'essentiel des nouvelles importantes, y compris les nouvelles économiques et financières. L'infolettre InfoBref est gratuite. Inscrivez-vous à infobref.com.
Le balado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
C'est pas tout à fait une question du beau-frère, mais c'est une suggestion quand même de Maxime Lemonde, qui, lui, se met dans la peau du beau-frère, qui dit « Est-ce que je liquide tous mes placements non enregistrés dans ma société de gestion, dans mon incorporation, pour optimiser la croissance de mes gains en capital sur 20 ou 30 ans à cause du budget Freeland? » Pour ceux qui viennent de se réveiller, ben, dès le 25 juin, il va y avoir des mauvaises surprises avec le gain en capital dans une incorporation, puisque le taux d'inclusion va passer à 66,66. Ça signifie donc que les deux tiers seront imposables. Il n'y a pas de passe-droit comme on a du côté du particulier. Le particulier, lui, il y a les premiers 250 000, ça ne change pas. Le taux d'inclusion est à 50 % et ensuite, l'excédent, le taux d'inclusion va passer comme ça aux deux tiers. Alors, pour Maxime, non, c'est peut-être pas une recommandation de dire on va céder, on va vendre tous nos investissements avant le 25 juin, il n'y a pas panique en la demeure. Il faut regarder les montants, il faut regarder la situation. Je crois que ça mérite un petit peu de recul avant de prendre des décisions hâtives de ce côté-là. Mais on peut quand même être un peu déçu du budget Freeland, quand même qu'il soit dans la continuité de la marque de commerce Trudeau, c'est-à-dire dépensons sans compter. On voit qu'il y a des milliards en nouvelles dépenses, mais très peu de remises en question et de dégraissage de l'appareil public. On aurait pu faire ça avant d'augmenter donc le taux d'inclusion du gain en capital, mais que voulez-vous? Il y a des élections qui s'en viennent, mais ce que je n'aime pas, puis peut-être vous l'avez remarqué aussi, c'est qu'on commence à cibler des catégories de citoyens. Là, on est en train d'imaginer que ceux qui possèdent des actifs immobiliers ou des titres boursiers ou qui ont une PME sont des ultra-riches. Mais non, un proprio de duplex à Rosemont, une grand-maman qui a un chalet à Saint-Dona, ce ne sont pas des ultra-riches. Comme un restaurateur de Brossard ou un dentiste de Laval, non. Alors, Justin, il tient peut-être à les présenter comme des gras durs parce qu'ils peuvent toucher une fois, de temps en temps, une fois, deux fois dans toute leur vie, un peu de gain en capital qui va excéder les 250 000. Mais en soi, ça finance même pas une retraite. Alors, faut se calmer. Je crois qu'on manque d'imagination parce qu'il y avait pourtant des pistes de solutions pas très loin de la frontière. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait avec le gain en capital? C'est taxé selon la période détenue. Pour du gain à court terme, ça veut donc dire qu'on ne veut pas participer économiquement. Alors là, ce qui est détenu moins d'un an, il y a des taux qui sont comme le revenu ordinaire. Alors on va plus loin finalement que Justin Trudeau. Vous voulez spéculer, que ce soit sur l'immobilier, soit sur les titres boursiers. Alors sur la période détenue, si c'est moins d'un an, ben vous allez gagner comme du salaire et ce sera imposable au maximum. Mais pour le gain à long terme, cependant, là, on bénéficie de taux plus bas qui sont des fois de 0 % 15, 20 % selon le niveau de revenus du contribuable. Et c'est là que c'est vraiment intéressant si on veut être juste et équitable. Il y a des taux par État parce qu'il y a quand même des États qui ne taxent pas le gain en capital par-dessus le fédéral, comme l'Alaska, la Floride, Nevada, Dakota du Sud, le Texas, Washington, Wyoming, Tennessee et New Hampshire. Et il y en a qui sont quand même élevés. Le plus élevé pour l'inclusion du taux de gain en capital, bien là, la taxation en Californie, c'est au sommet, mais c'est pas très élevé. On parle de 13,3 au niveau de l'État. Et il y a l'Oregon, Minnesota, ça c'est à peu près à 9 % dans ces eaux-là. On aurait pu être imaginatif et même aussi offrir le maintien du gain en capital pour les investissements au Canada et pour le gain en capital à l'extérieur du pays, puisqu'on ne fait pas travailler notre économie, mais celui des étrangers. Et là, on aurait pu donc augmenter un peu le niveau d'inclusion. C'est le genre de choses que j'aurais aimé entendre. Et même, pourquoi pas, ramener le taux de contenu étranger dans les investissements CELI REER. Il y avait ça auparavant. Dans les REER, par exemple, vous aviez un plafond de 25-30 %. Ça a été aboli, mais il me semblait que c'était un encouragement quand même à découvrir les entreprises et participer à l'économie canadienne. Des déficits monstrueux, aucun retour à l'équilibre de prévu, c'est sans doute le dernier budget de Justin Trudeau. Il va faire des mécontents tant au NPD que chez les conservateurs. Et moi, je gage une paire de loup-boutin usagés que Pierre Poilievre, une fois élu parce qu'il se dirige vers ça, il va ramener le taux d'inclusion du gain en capital à 50 %. Parce que c'est pas vrai, dans le fond, là, s'il veut être l'apôtre du gros bon sens, que ce sont juste les plus riches qui profitent du gain en capital. Il y a beaucoup de travailleurs de la classe moyenne qui ont misé sur la revente du chalet, du triplex ou la vente d'actions pour financer leur retraite parce qu'ils n'ont pas de fonds de pension et ils ont mis donc leurs économies là-dedans.
Balado, le planif, investissement.
La Banque de Montréal, marché des capitaux, l'associé aux solutions d'investissement multiactifs, William Jeté-Corriveau. Bonjour William, merci d'être avec nous.
Ça va bien, merci.
Content, toi aussi c'est la première fois, je pense, que tu rencontres nos proches et nos clients, nos amis.
Effectivement, bien content d'avoir eu la chance de parler avec quelques-uns d'entre vous.
Oui, alors le monde des obligations et des billets à capital protégé, c'est un monde qui se côtoie quand même, hein?
Effectivement, un billet à capital protégé, en quoi ça consiste? C'est une obligation qui est émise par une institution financière, ici la Banque de Montréal. Donc, la Banque de Montréal va émettre une obligation. Puis, à l'intérieur de cette obligation-là, il y a une stratégie d'option qui permet aux clients d'obtenir un rendement qui est prédéterminé selon certaines conditions de marché qu'on vient établir au préalable. Donc, le client va obtenir un coupon qui est prédéterminé selon les conditions de marché.
Tu viens de nous parler de quelque chose d'un peu ahurissant et on veut savoir si c'est trop beau pour être vrai. Un coupon, un billet garanti, à notre demande, BMO a structuré un billet comme ça à partir d'actions qui ont peut-être été malmenées dans les dernières années. Et vous avez fait un coupon dont la valeur nominale de 100 $ ne bougera pas pendant qu'on le détient, mais assorti d'un coupon de 12%, c'est exact?
Effectivement, la structure de ce produit-là, c'est basé sur un panier d'actions canadiennes. Ici, on parle de 10 actions canadiennes globalement diversifiées dans différents secteurs, 10% chaque. Puis ici, le fonctionnement de ce produit-là, c'est pas un CPG. Là. Il faut pas le confondre. Le 12%, il est prédéterminé, mais il est pas garanti à 100%. Le capital est garanti à 100%. Pour obtenir le coupon, il faut que dans un horizon de 10 ans, ces actions-là performent d'un minimum de 5%. Donc, basé sur des données historiques qu'on a depuis 1999.
Mais en même temps, c'est là que le billet se termine. La banque va le racheter dès qu'on fait 5%.
Effectivement. À chaque année, il y a une date d'observation. Puis, si après l'année 1, l'indice est en hausse de 5%, bien, le billet va être racheté. Le client va obtenir sa performance de 12%. Puis après, le client va avoir l'opportunité de réinvestir dans un autre produit s'il le désire ou okay. Encore de garder l'argent en encaisse.
Alors, on va y aller avec un petit peu plus d'explications parce que c'est assez, je te dirais, bizarre comme produit. La durée, c'est la durée de vie maximale, si je comprends bien.
Effectivement, c'est la durée de vie maximale. La durée de vie réelle d'un produit comme ça est de moins de 2 ans.
OK. On va justement regarder si on avait investi, il y a quoi, dans les dernières années, de 2012 à l'année dernière, dans les billets que vous avez émis, marché des capitaux BMO. Et là, la durée de vie, on l'a dans le bas. Ce sont des billets qui sont rachetés par la banque. Ça, c'est lorsque vous faites l'observation. Et si on vient toucher le seuil déterminé, dans ce cas-ci, c'est quoi, 5%?
5% exactement, 5% de performance de l'indice de
référence. Puis les périodes d'observation, c'est quoi? C'est 12 mois plus tard, à peu près?
Chaque billet va avoir une structure différente. Le billet qu'on a créé pour l'équipe majeure, c'est une observation annuelle. Donc, à chaque année, on regarde si l'indice a performé de 5%. Et si oui, il y aurait le coupon de 12% qui serait versé au client. Puis ça, si c'est l'année 1, ça va être 12. À l'année 2, ça serait 24. Donc, le coupon est cumulatif. Mm-hmm. À chaque année qu'on manque, on va le recevoir en plus dans les années suivantes. Donc, l'avantage d'un billet comme ça, c'est que on mentionne depuis le début de la soirée, il n'y a personne qui a boule de cristal. On ne sait pas quoi nous réserve l'avenir, mais avec un produit comme ça, on est payé pour attendre. Donc, si les marchés performent moins bien à court, moyen terme...
On a un 12% en banque.
On a un 12%, on ne le reçoit pas, mais on l'a en banque, comme vous dites, puis on sait que dans un horizon de 10 ans, d'un point de vue historique, à un certain moment, il va avoir une performance positive de notre indice qui va nous permettre d'aller cristalliser ce gain-là.
OK. Sur l'ensemble des billets que vous avez émis, la durée de vie, c'est moins de 2 ans, de ce que je comprends, puis le rendement moyen que les investisseurs ont obtenu, c'est 8,9. C'est ça?
Exactement. Ça, c'est dans tous nos différents billets qu'on émet. Ça inclut différentes conditions de marché aussi, différents indices de référence. Donc ça, c'est la somme de tous nos billets, effectivement.
OK. Alors là, les caractéristiques, on a une protection totale en cas de baisse. Le billet, je pense que la valeur va rester à 100 $ sur les relevés de compte.
Effectivement.
Le niveau de remboursement, c'est 5 % à l'observation. Le coupon, 12. Mais c'est pas trop beau pour être vrai, ça, 12 %
Non, mais la chose à savoir, c'est que oui, c'est que les conditions de marché actuelles sont favorables à ce genre de produit-là. Tu peux prendre un pas de recul puis expliquer mon rôle à la banque. Moi, qu'est-ce que je viens faire? C'est travailler avec des conseillers financiers, des gestionnaires de portefeuille, des clients fortunés pour créer des produits sur mesure selon les conditions de marché. Donc, en ce moment, on le voit depuis la soirée, les taux d'intérêt sont intéressants. Ça me permet d'offrir un coupon qui est avantageux. Dans 2-3 ans, si les taux d'intérêt sont plus bas, ça va être une autre structure, quelque chose de différent. Puis, donc, la raison pourquoi le coupon de 12 % est intéressant en ce moment, c'est parce que les conditions de marché nous offrent cette opportunité-là.
OK. Là, on a les titres sous-jacents. Là. On reconnaît 3 grandes banques là-dedans, 3 sociétés d'énergie, 2 assureurs et aussi des compagnies de télécom. Elles ont toutes à peu près le même point commun d'avoir été malmenées en bourse à un moment donné ou à un autre dans les 3 dernières années.
Effectivement, c'est des compagnies qui ont une sensibilité au taux d'intérêt. On peut penser aux banques, effectivement, aux sociétés de télécom qui ont beaucoup d'actifs, donc une très grande sensibilité au taux d'intérêt. Donc, avec cette volatilité-là, vient aussi l'opportunité d'offrir un coupon qui est intéressant. C'est sûr, si c'était d'autres titres, on ne serait peut-être pas capable d'offrir le même coupon.
OK. Et puis, dans le cas du billet remboursable comme tel, on a un exemple ici d'une évolution dans le temps. Et puis, vous êtes capable de tirer aussi les probabilités que le remboursement s'effectue. Et je pense pas que c'est sur une très, très longue période. Et vas-y, j'attends ton explication pour ce graphique.
Oui, effectivement, ce graphique-là vient représenter le... Qu'est-ce qui peut se passer dans la durée de vie d'un produit comme ça? Donc, si on prend un exemple d'un client qui met 10 000 $ dans un produit comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans un an, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé avec l'indice de référence. Si l'indice de référence a fait, on va dire, 1 %, mais le billet ne va pas être acheté puisque la condition de rachat est à 5 %. Donc, il n'y a rien qui se passe la première année. On atteint une deuxième... Dans l'état de compte, la note est encore à 100 $. On atteint une deuxième année.
Et ce qui influence la valeur, c'est vraiment le sous-jacent qu'on a regardé, les titres boursiers.
Exact.
Donc, le pari, c'est est-ce que ces titres-là peuvent faire combiner 5 %?
Exactement. Puis, on met le plus long terme possible pour vraiment maximiser les chances d'être acheté. Mais ce n'est pas parce que c'est un produit 10 ans, que, comme on l'expliquait plus tôt, qu'il va durer 10 ans. La durée de vie moyenne est seulement de 2 ans. Mais si jamais, raison pour une autre, on se rend à l'année 7, puis on est juste en baisse, on est en hausse de 4 %, on aurait voulu avoir l'année 8, 9, 10. Fait qu'on le met au préalable, les 10 années du terme, pour vraiment maximiser les chances d'être acheté. Donc, si on prend un exemple qu'un client met 10 000 $ dans ce produit-là, puis ça prend 2 ans pour être acheté, bien, la performance va être de 24 %. Si ça prend 3 ans, ça va être 36 %, et ainsi de suite.
Et encore une fois, avec les probabilités, vous avez, j'imagine, avec des actuaires chez vous, fait l'analyse de probabilités avec toutes sortes de fréquences historiques de remboursement par anticipation. Comment vous êtes venu à un chiffre comme ça de 3635 observations? Alors, ça fait quand même pas 3635 ans que le billet existe chez BMO.
Non, effectivement, on est venu simuler différents environnements marchés depuis 1999. Donc, on a assumé qu'on avait lancé ce même produit-là à chaque jour depuis 1999. Donc, puis on a fait la moyenne de chacun de ces billets-là. OK, celui qui a été émis le 1er janvier 1999 a duré combien de temps? Celui qui a été émis le 2 janvier 1999 a duré combien de temps? On est venu compiler tout ça pour obtenir les statistiques qui sont démontrées ici.
Donc, alors, dans le bas, c'est l'année 1. On pourrait dire, à la lumière de votre explication, que dans 60 % des cas, le rachat s'effectue après l'année 1.
Effectivement. Dans 60 % des cas, le billet a seulement duré un an, puis le client a obtenu sa performance de 12 % à la première année. Puis là, on voit que c'est cumulatif comme statistique. Donc, à l'année 2, si on fait la différence entre le 79,2 et le 60, on voit que de 19,2% des cas, le billet a duré 2 ans. Et ainsi de suite, pour obtenir une statistique à 100% à l'année 6. Donc, depuis 1999, dans 100% des cas, à chacune des journées depuis 1999, le produit aurait duré un maximum de 6 ans. Donc, à ce moment-là, ça aurait été un coupon de 72 % qui aurait été versé au client.
Est-ce que tu as déjà connu le capitaine Bonhomme?
Non. Je suis peut-être un peu trop jeune pour ça.
Ben, il y en a qui l'ont entendu ici. Le capitaine Bonhomme, c'était un personnage de mon enfance qui avait toujours des exagérations incroyables. Je pense qu'il était inspiré du baron de Munchausen, mais bref, il avait fait le tour des sept mers et puis il y avait toujours des aventures. Évidemment, on était toujours un peu sceptiques.
Je comprends.
Pourquoi on serait confondu avec ça?
Je veux dire, les conditions de marché nous permettent, je vais revenir à ça, la volatilité qu'on voit en ce moment sur les conditions de marché, les taux d'intérêt, c'est un peu l'incertitude qu'on voit, c'est un peu la tempête parfaite, mais du côté positif, pour créer un produit comme ça, il ne faut pas oublier que la performance, ici, on parle de la performance en prix de ces actions-là. Donc, c'est sûr que ces actions-là, c'est toutes des actions qui vont verser des hauts dividendes. Puis ces dividendes-là nous permettent aussi d'obtenir le coupon de 12 %. Donc, c'est une fois qu'on met toutes ces conditions-là ensemble qu'on arrive au coupon de 12 %. Mais ça peut rassurer les gens. Peu importe ce qui se passe à la stratégie qui est sous-jacente, le BMO a une stratégie d'option, mais la structure est garantie par le risque de crédit de la BMO. Donc, le client, vous allez recevoir le coupon, même si notre stratégie sous-jacente ne fonctionne pas, parce que c'est garanti par le risque de crédit de la BMO. La seule manière que vous n'êtes pas payé, si les conditions ne sont pas remplies, c'est si la Banque de Montréal venait à faire faillite. C'est le seul enjeu, parce que c'est au même titre qu'une obligation. Alors, en fait, une note structurée, c'est une obligation de la Banque de Montréal. Le risque est celui du crédit de la banque elle-même.
On va préciser une chose aussi, et c'est un produit sans commission. Et il est aussi sans frais comme tel. La banque, explique-moi, William, comment elle fait son argent?
C'est une bonne question.
Oui, ça. Je suis d'accord avec toi.
La raison principale pourquoi les banques canadiennes vont émettre des notes structurées, je l'ai dit, c'est une obligation. Donc, c'est une manière de financer nos opérations. Nous, c'est de l'argent qu'on vient prendre dans nos coffres pour faire d'autres choses. Puis on sait qu'à un certain moment, il va falloir rembourser les capitaux. Donc la raison...
Pour la prêter sur notre carte de crédit à 22 %
Des raisons comme ça, exactement, des hypothèques. Parce qu'il faut comprendre que oui, on paye 12 % mais le marché nous permet de donner ce 12 %-là. On ne le sort pas de notre poche pour donner aux clients. C'est vraiment la stratégie d'option qui est sous-jacente. Mais oui, on va utiliser ces capitaux-là pour les différentes opérations en succursale.
Mais ce n'est pas du bénévolat.
Non, ce n'est pas du bénévolat. En termes d'objectifs de rendement, il n'y a pas de frais de gestion reliés à ça. Il n'y a pas de MIR qu'on peut avoir l'habitude d'avoir. La raison est simple, c'est parce qu'on ne sait pas l'année du rachat. Donc, si le produit est racheté l'année 1, si le produit est racheté l'année 2, le rendement total qu'on va verser au client n'est pas le même. Donc, il n'est pas en mesure de dire au client combien de frais va lui donner. La seule chose qu'on est capable de donner au client, c'est le fait que net de nos frais de la Banque de Montréal, le client va recevoir 12 % au même titre qu'une compagnie d'assurance ne peut pas dire le rendement, les bénéfices qui vont se faire sur votre police, parce qu'ils ne savent pas si votre maison va passer au feu, s'il y a pas d'autres enjeux. Donc, je ferai le même parallèle ici. On ne connaît pas les conditions de marché futures, donc on n'est pas en mesure de déterminer.
Ben, en fait, un investisseur pourrait dire la différence, qu'est-ce qui peut être un coût, c'est à quoi on renonce si on achetait ces titres boursiers-là précis, est-ce qu'on obtiendrait davantage que 12 % par année? Mais on peut quand même considérer que 12 % par année, c'est très bon.
C'est très bon, puis il ne faut pas oublier l'idée qu'ici, on parle d'un produit à capital 100 % protégé. Si on achète une action, on n'a aucune protection de capital, donc c'est important de faire la nuance. Là, ici, on parle vraiment d'une alternative à du revenu fixe. Donc, c'est ça la nuance. Ici, c'est pas une alternative à des actions nécessairement.
Fiscalement parlant, ça rapporte de l'intérêt, donc c'est imposable tout ce qui sera versé en coupons totaux à la fin.
Effectivement, ça va être du revenu d'intérêt qui va être versé au client. Donc, dans un compte enregistré, évidemment, c'est le scénario idéal. Mais après, si ce produit-là est une alternative à un CPG ou un fonds obligataire traditionnel, bien, le taux d'imposition serait le même.
C'est vraiment intéressant et on a toutes sortes d'idées, mais on a un temps limité avec ces émissions-là. On en cherche toujours. À chaque semaine, il y en a de nouvelles. Celle-là, ben merci d'avoir fait cet exercice avec nous, de faire un billet dont la valeur ne fluctuera pas, mais qu'on a des conditions franchement très attrayantes. Merci beaucoup, William.
Merci à toi de l'invitation.
William Jeté-Corriveau de la BMO Marché des Capitaux.
Au balado Le Planif, notre invité est Alexandre Lannoy. Il travaille à Hong Kong dans les services financiers. Bonjour Alexandre.
Bonjour Fabien.
Alors c'est rare, il me semble, un Québécois expatrié comme ça qui travaille à Hong Kong sur le territoire chinois. Depuis combien de temps y es-tu?
Ça fait maintenant 13 ans que j'y suis de manière permanente.
Ah d'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené là-bas, à l'autre bout du monde comme ça?
Donc j'ai un peu le parcours typique de l'étudiant d'échange qui tombe en amour avec son pays d'accueil et qui décide d'y retourner une fois ses études terminées. Donc j'ai fait mon bac en finance à McGill et puis... Durant mon bac, j'ai passé une année à Hong Kong en 2007-2008. Et puis, quand la Chine était en explosion encore. Et puis, j'ai eu la chance de visiter la région, visiter l'Asie. Et puis, quand j'ai gradué en 2009, c'était la crise financière. Donc, disons qu'au Canada et aux États-Unis même, les opportunités d'emploi en finance étaient assez limitées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me lancer et d'aller étudier le chinois, le mandarin à Pékin. Donc, j'ai étudié le mandarin à Pékin pendant un an. Et puis, par la suite, ça m'a permis de me trouver du boulot en finance à Hong Kong.
Ah bon? Et entre Pékin et Hong Kong, à cette époque, est-ce qu'il y avait des différences marquées? Avais-tu remarqué donc des différences soit culturelles ou soit au niveau des différents processus administratifs?
Oui, il y a des différences assez grandes, en fait, en termes de la culture. Hong Kong est beaucoup plus occidental dans sa manière de faire. Donc, pour moi, un jeune expatrié, c'était beaucoup plus facile de m'intégrer et de trouver du boulot qui était relié à mes études et à ce que je voulais faire. Et au niveau administratif, au niveau des visas et tout ça aussi, c'était plus facile.
Alors, tu es établi maintenant à Hong Kong et tu travailles. Et dans ta projection du futur, est-ce que tu es rendu justement à faire ce que tu souhaitais faire durant tes études?
Oui, définitivement. Donc, j'ai toujours travaillé en finance à Hong Kong. J'ai commencé en fusion-acquisition pour une banque d'affaires ici à Hong Kong. Et je faisais affaire avec d'autres pays, donc c'était un peu du ce qu'on appelle du cross-border M&A. Par la suite, bon, ce qui m'a amené tranquillement, j'ai fait mon MBA après ça, et puis j'ai travaillé pour un conglomérat faisant partie de leur équipe de fusion acquisition aussi. Tout ça m'a amené pour travailler dans une compagnie de gestion d'actifs. J'ai quitté cet emploi en 2021 et j'ai décidé de créer ma propre compagnie de gestion d'actifs ici à Hong Kong. Oui, c'est disons que au jour d'aujourd'hui, je suis assez satisfait là, de où ça m'a amené.
Alors, Fieldcrest Partners, c'est ta firme d'investissement et vous gérez des comptes pour des particuliers ou encore vous êtes le gestionnaire pour des distributeurs de produits de finances?
Donc, Fieldcrest Partners, c'est une compagnie de gestion de portefeuille. On a un portefeuille. On ne deviendra jamais une compagnie de gestion d'actifs multiples. Donc, on se concentre sur ce portefeuille en particulier. Quand j'ai commencé, il y a un peu plus de 2 ans, la manière qu'on le fait, c'est d'utiliser, disons, mes fonds et les fonds de la famille très proche pour démarrer. Et je suis présentement, au moment où on se parle, je suis en train de structurer la firme pour pouvoir accueillir des investisseurs externes.
Alors, dans la gestion de portefeuille, ton quotidien, c'est d'analyser et d'intégrer des entreprises. Mais est-ce qu'essentiellement, ce sont des entreprises chinoises, des entreprises d'Hong Kong ou même à l'international?
Oui, donc ce qu'on couvre, c'est global. Donc, on se focus sur des compagnies listées en bourse, évidemment, de petite à moyenne taille, disons qui ont un gros potentiel de croissance et qui offrent aussi un important potentiel de retour sur investissement. Donc, je gère un portfolio qui a de 12 à 15 entreprises à l'intérieur. Donc, c'est assez concentré. On investit avec une vision qui est à très long terme. Pour nous, ça veut dire au moins de 5 à 7 ans quand on investit dans une compagnie si on fait pas d'erreur de sélection. Et voilà, on peut investir aux États-Unis, au Canada, en Europe. On a même des compagnies dans le portfolio qui sont en Australie. Donc, c'est assez varié. Par contre, jusqu'aujourd'hui, c'est principalement des compagnies qui sont dans des pays avec des économies qui sont un peu plus matures. Je ne suis pas fermé à investir en Chine, en Inde, en Indonésie, des pays qui sont un peu plus en développement. Par contre, j'ai, disons, une expérience assez profonde dans ces marchés-là et pour le moment, de retour sur investissement versus le risque, pour nous, n'en vaut pas la peine.
Maintenant, parlons de ton quotidien à Hong Kong. Quelles sont les plus grandes différences qu'on peut observer par rapport à la vie à l'occidental?
Chaque expatrié a un petit peu sa propre expérience. J'ai réussi à, disons, me bâtir une vie sur mesure, si on veut, à Hong Kong. Si on regarde Hong Kong en tant que tel, je pense qu'il y a une assez grosse différence entre les plus riches et les plus pauvres, malheureusement. Donc ça peut être assez frappant pour quelqu'un qui arrive. Donc l'écart est assez gros. Hong Kong, c'est une très, très belle ville. Par contre, quelqu'un qui va vivre au bas de l'échelon économique va avoir une qualité de vie qui va être beaucoup moins élevée, disons, que quelqu'un de moins nanti au Québec.
Et ça prend combien d'argent, peut-être, pour vivre dans la classe moyenne de Hong Kong?
Le salaire moyen à Hong Kong par mois était d'environ, en dollars canadiens, je crois que c'est environ 3 000 $ par mois. Ce qui, considérant les coûts de la vie et tout ça, c'est vraiment pas beaucoup là. Pour élever une famille, pour acheter un appartement, c'est presque hors de question.
Ah oui, mais justement, parlant du coût de la vie à Hong Kong, quand on regarde les chiffres sur l'immobilier à l'échelle mondiale, ça semble être la ville au sommet avec Londres, avec quelques autres grandes capitales mondiales comme Paris pour ce qui est de l'inabordabilité du logement. C'est le cas, se loger, je sais pas, dans un 2, un 3,5, un condo à Hong Kong?
C'est extrêmement cher. Ça dépend évidemment des différentes régions à Hong Kong. Mais si on parle des régions les plus chères, oui, c'est très, très cher. Et puis, on n'a pas exactement la même définition ici à Hong Kong en termes de grandeur d'appartement. Donc, on n'a pas on définit pas en termes de 2,5, 3,5,
Non.
mais ça va être plus en pieds carrés. Mais oui, on a des. C'est pas impossible de trouver des appartements en pieds carrés qui vont être de 300-400 pieds carrés et les gens vont payer. Ça peut aller jusqu'à 3 000, ça peut être facilement 3 000 $ canadiens par mois. Donc, oui, c'est
Ah oui.
cher.
Oui, en superficie, si je fais une référence avec le Canada, c'est peut-être un 2,5. C'est vraiment tout petit, 300-400 pieds carrés, là. Un appartement est 3-4,5, c'est comme 900 pieds carrés. Alors, ouais, on comprend payer 3 000 $ par mois quand c'est à peu près le salaire moyen, là. Oh, c'est quelque chose. Est-ce que tu as senti dans les dernières années une forme de ralentissement économique puisque du Canada, on perçoit, que ce soit avec les indices boursiers ou avec les nouvelles qui nous parviennent ici, que l'économie a vraiment ralenti à partir de 2020 peut-être?
Oui, bon, les nouvelles qu'on a le plus à l'international, c'est plutôt font référence à la Chine en tant que telle et pas nécessairement Hong Kong. Hong Kong, l'économie locale est assez petite en soi, même si la population de Hong Kong, c'est la population du Québec, mais c'est très connecté évidemment avec la Chine. Donc, après les manifestations qu'on a eues en 2019, après la pandémie et le ralentissement économique en Chine, c'est évident que l'économie locale à Hong Kong a ralenti. On le voit juste au niveau des prix. Bon, on parlait d'immobilier. Au niveau des prix de l'immobilier, ils ont baissé. C'est toujours cher, mais ils ont baissé. Le nombre d'introductions, disons, à la bourse de Hong Kong est passé de comme plus de 200 introductions en 2018 à 70 l'an dernier. Il y a plusieurs expatriés qui ont quitté et qui n'ont pas revenu. Donc, oui, on peut sentir quand même que il y a moins d'activité. Mais bon, ça ne veut pas dire que Hong Kong est mort, mais oui, c'est plus tranquille.
Quand même, si tu lances à ce moment-ci une firme de gestion de portefeuille ou de patrimoine, alors c'est peut-être un bon timing puisque ça peut reprendre. Et d'ailleurs, c'est les nouvelles qu'on sent que y a quelque chose qui bouge et puis que la Chine en général, y compris Hong Kong, est peut-être à l'aube d'une reprise. Ça, est-ce qu'on en parle aussi?
Oui, évidemment, on en entend beaucoup parler. De mon côté, pour Fortress Partners, ça nous affecte un peu moins vu qu'on a un focus vraiment global. Les clients potentiels et tout ça, c'est vraiment sur l'échelle, à l'échelle mondiale et les investissements aussi. Donc, ça nous touche un peu moins. Par contre, oui, c'est sûr que je suis au courant des nouvelles. Et on en entend beaucoup parler. Je parle disons, mes collègues de l'industrie qui se focusent surtout sur la Chine et l'Asie parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la région. Et ils espèrent tous un rebond des marchés chinois. Je pense que, bon, tranquillement, il y a un petit peu plus d'ouverture au niveau des investisseurs pour investir en Chine, mais ceci étant dit, il reste beaucoup à faire, surtout il y a beaucoup d'implications politiques, donc c'est à considérer.
Le fait d'être Canadien, Alexandre, Canadien d'origine, là, ça fait 13 ans que tu es établi à Hong Kong. Est-ce que ça t'a causé ou ça te cause des difficultés ou certaines tensions, que ce soit avec des organismes de réglementation qui, veut pas, sont quand même des extensions du gouvernement?
La réponse courte est non. Les Canadiens, puis le Canada en général est assez bien vu à Hong Kong. Il y a environ 300 000 personnes à Hong Kong avec un passeport canadien. Donc, c'est sur environ 8 millions de personnes, c'est quand même important. Puis, si le nombre de personnes avec un passeport canadien à Hong Kong était une ville, ça serait environ la 15e plus grande ville du Canada et juste devant Saskatoon. Donc, c'est quand même important. Par contre, il y a à peu près moins de 10% là, de ce 300 000 personnes qui sont, disons, des Canadiens d'origine. Parce qu'il y a beaucoup de Hongkongais, de Chinois qui ont été accueillis à bras ouverts en 97 quand Hong Kong est retourné à la Chine. Et un petit peu plus récemment, là, avec les changements de loi, le Canada a aussi fait un effort pour accueillir, disons, les Hongkongais au Canada. De manière plus générale, est-ce que le fait d'être étranger ou expatrié à Hong Kong est aussi avantageux qu'avant? Non, je pense pas. Premièrement, la main-d'œuvre est beaucoup plus éduquée et expérimentée qu'elle l'était avant. Donc, le besoin de faire venir des expatriés pour faire le boulot qui ne pouvait pas se faire ici au niveau local, disons que c'est moins le cas. Et l'autre raison est que Hong Kong est de plus en plus proche de la Chine. Alors, il y a plus en plus d'emplois qui requièrent d'avoir le chinois comme langue maternelle ou d'avoir une expérience très, très développée en Chine. Et ce n'est pas le cas pour la majorité des étrangers. Et normalement, c'est assez difficile d'arriver à ce niveau-là sans être chinois, sans être hongkongais.
Mais au quotidien, travailles-tu en anglais normalement ou même en mandarin?
Normalement en anglais. Ici, la langue locale, c'est le cantonais, qui est une langue assez difficile à apprendre, même plus difficile que le mandarin, je dirais. Non, je converse principalement en anglais. Les gens d'ici de Hong Kong, il y en a plusieurs qui aiment pas nécessairement parler le mandarin. Il y a un petit peu cette dualité, un petit peu comme le Québec, disons, avec le reste du Canada. Ils préfèrent parler soit le cantonais ou l'anglais.
Et tu parles les deux, mandarin et cantonais?
Je parle pas le cantonais. Je parle pas le cantonais. Le cantonais, j'ai, disons, maintenant, j'ai deux petites filles. Et ma femme, elle est de Hong Kong et parle cantonais. Donc, je fais des blagues, je dis que j'apprends le cantonais de bébé. Donc, ça va. Mais mis à part, c'est plus compliqué.
Alors, j'imagine que ça peut être difficile d'avoir justement des enfants qui grandissent avec une influence cantonaise, avoir étudié le mandarin, étudié en anglais au Canada, d'origine francophone, et dis donc, dans la nuit, tu rêves en quelle langue?
C'est une bonne question. Disons, la langue que j'utilise le plus au jour à jour, c'est l'anglais et probablement un peu de français aussi. Donc, je l'ai pas perdu, mais c'est principalement l'anglais, oui.
Je partage un souvenir de maîtrise. Je suis allé faire ma maîtrise en administration des affaires à l'université, l'école de sciences de gestion de Montréal, mais la finale a eu lieu en Chine. On s'est promené à Xi'an, Beijing, Shanghai, et il y avait des visites chez CITIC, des visites aussi du côté de Manuvie, qui est présent en Asie depuis vraiment très longtemps, et aussi du côté de la Deutsche Bank. Et les qualités des gestionnaires qu'on interrogeait nous disaient tous que ça prend une bonne maîtrise de la numérologie. Est-ce exact aussi à Hong Kong?
Les Hongkongais, c'est des gens très, très pratiques, très concrets. Tout ce qui va les aider en ce sens, ils vont pouvoir le faire. La numérologie en tant que telle, un petit peu, mais probablement beaucoup moins qu'en Chine continentale.
Ouais, là, il utilise la numérologie, on me dit que c'est par superstition d'un ensemble de populations où certains titres qui portent des numéros malchanceux vont se faire délaisser par les investisseurs, même s'ils sont bien gérés.
Oui, c'est possible. Il y a des chiffres comme, disons, en Occident, c'est le numéro 13 pour nous. Le numéro 4 est très mal vu parce que ça sonne, disons, le son du mot est semblable au mot de la mort en chinois. Donc, le numéro 4 est normalement émis s'il y a un building qui se construit. On va normalement émettre le numéro, le quatrième étage, le 14e, 24e, etc. Parce que c'est mal vu.
Chez nous, ce qui porte malheur, c'est le T4, surtout dans le temps des impôts.
Oui. Ben voilà.
Alexandre, comment vois-tu l'avenir? Est-ce que tu comptes rester là? Mais maintenant, oui, ça semble le cas puisque tu établis une famille.
Oui, disons, ma famille est établie ici. Ça fait 13 ans que je suis établi. Je pense que, oui, je vois mon futur. Hong Kong va toujours rester une partie de mon futur. Ce qui est l'idéal, en fait, et ce qui est rendu possible aujourd'hui avec le télétravail et tous les outils qu'on a, c'est de passer, disons, une partie de l'année à Hong Kong et une partie de l'année, disons, dans un autre pays, que ce soit le Canada ou l'Australie ou un pays occidental. C'est quelque chose qui est en discussion et que la famille est pour.
Merci de ton temps, Alexandre, et longue vie à Faircrest Partners.
Merci beaucoup, Fabien.
Voilà, ça complète cette édition du Balado Le Planif. Merci à nos deux invités, William Jeté-Corriveau de BMO et de chez Faircrest Partners, qu'on a rejoint à Hong Kong, Alexandre Lannoy. Ici Fabien Major. À bientôt.